le gros journal, 23h15, minuit. Addiction
à écouter sans modération.
Sans modération. Bip bip là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour, je suis bien contente de vous retrouver et d'apprendre que nous sommes si nombreux à écouter là-bas si j'y suis. Ce soir, comme chaque dernier mardi du mois, nous nous retrouverons à Cervant chez Lulu, anciennement le Bar Fleury. Cervant, c'est en Haute-Savoie, entre Annemasse et Thonon. Dès 19h, on cassera la croûte et dès 20h, on partagera nos coups de cœur, nos déceptions, nos engagements pour cet automne. Et on va continuer de décrypter le phénomène de l'argent, comme dans l'émission de hier, qui était si intéressante, et s'impliquer dans des monnaies alternatives et complémentaires, qui fleurissent un peu partout, et chez nous aussi. Ça sera un bon sujet à traiter pour là-bas, si j'y suis, je trouve. Allez, bon courage, et on continue. On lâche rien. C'était Catherine, du repère de Cervant. Ciao.
Oh, c'est marrant parce qu'il y a à peu près un an et demi, quand j'ai commencé à écouter tes émissions, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de gauchistes? Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et je voulais te dire que tu m'avais beaucoup aidé en écoutant tes émissions. Je savais pas pour qui voter, je votais surtout pas à gauche, mais enfin, voilà. Tu m'as aidé quand même, voilà, tout simplement. Et depuis, je suis très très contente, notamment celle d'aujourd'hui, celle de reprise, lundi. J'aime bien quand tu invites des gens, parce que j'écoute, je comprends, et ça m'apprend plein de choses, voilà. Merci, Mermet. Maintenant, je t'aime beaucoup, enfin vraiment, hein.
Bonjour, je suis de l'Association des Congolais de France. Le message est de vous dire qu'il y a dans le parc de Virunga, qui est écrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est aussi le sanctuaire des gorilles de montagne. Les Rwandais ont amené des familles pour installer dans ce parc de Virunga et avec les grandes multinationales comme Total qui veulent exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Et je vous appelle pour vous dire qu'un cri de larmes des populations de l'Est du Congo pour démontrer comment la politique néfaste de la République du Rwanda et son président Paul Kagame pour occuper l'Est du territoire du Congo et exploiter le pétrole dans le parc naturel du Virunga.
Bonjour Daniel, je suis tout triste, j'ai appris par une petite colonne dans Libération de samedi 11, dimanche 12, que Mouloud Aouni était mort d'une tumeur au cerveau à 53 ans. Et le combat contre le racisme n'est pas mort. Lui, il est mort, malheureusement. Je suis tout triste.
Bonjour, je suis Marie-Claire. Je vous remercie d'être encore là. Ça fait beaucoup de bien. Et je voulais dire, Monsieur Manuel Valls, qu'est-ce que vous nous faites ? Mon père doit se retourner dans sa tombe, et ma mère aussi. Mon père, réfugié politique espagnol, est parti par le dernier bateau qui a quitté Valence en Espagne, avec son frère. Ils sont arrivés à Oran. Et 8 ans après, ils sont venus rejoindre leur femme dans le midi de la France, dans un camp de réfugiés. Leur femme qui avait passé les Pyrénées à pied, clandestinement, avec leurs enfants. Donc ma mère, mon frère. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, quand ils sont redescendus des montagnes, avec un passeur, bien sûr, à qui elles avaient donné tout ce qu'elles avaient, eh bien, il y avait un restaurateur français qui leur donnait à manger gratuitement à tous ceux qui arrivaient clandestinement. Tout le monde. Et mon père et mon oncle sont venus rejoindre leur femme. Je suis arrivée 1 an après. Et je suis mariée en France. J'ai donné 2 enfants à la France. Un petit-fils pour l'instant et un en route. Voilà. Voilà ce qu'a permis la générosité et l'intelligence de certaines personnes. Et Monsieur Manuel Valls, vous oubliez vos origines. Et vous oubliez ce que c'est que la générosité, l'ouverture d'esprit.
Merci pour ces messages, chère les AMG, auditeurs, auditrices, modestes, géniaux, géniales. J'ai troublé parce que j'entends le roucoulement des colombes. C'est joli comme tout ce fond sonore qui m'accompagne. Et ça tombe très bien ce témoignage parce que ça correspond tout à fait à l'histoire d'Harmonie. Harmonie, on l'a rencontrée, c'est Sarah Lefebvre qui au mois de mai ou juin, alors qu'on travaillait sur les élections, les militants, elle a rencontré Harmonie. Harmonie. Une femme qui s'appelle Harmonie et qui, ça s'écrit sans H. Mystère quand même. Et qu'est-ce qu'elle fait Harmonie? Eh bien, on va passer une heure avec elle, un jour dans la vie d'Harmonie, une militante, une femme qui passe sa vie à croire que l'on peut changer le monde, pas couper une branche de temps en temps, pas seulement le moindre mal comme horizon, mais véritablement changer le monde. Et il y a des gens qui y ont cru, beaucoup, il y en a encore quelques-uns qui y croient. Est-ce que c'est une espèce en voie d'apparition, une espèce en voie de disparition, l'avenir nous le dira. Et on l'a rencontrée alors qu'elle distribuait des tracts à la sortie du métro-église de Pantin, à la sortie de Paris, dans le 9-3. Et aujourd'hui, le chômage grandit, le FN aussi, l'impuissance aussi et l'impatience aussi. L'impuissance, l'impatience, ça peut peut-être caractériser cette rentrée, impuissance, impatience. En tout cas, pour Harmonie, le combat continue et c'est avec elle qu'on va passer cette heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour toute votre équipe, ça fait vraiment du bien de vous entendre à nouveau, puis d'entendre ce couple génial qui, vraiment, sont d'une salubrité publique. Et puis juste après avoir entendu ça, j'ai une copine qui m'a appelé. Elle est au RSA et comme tout le monde, elle a touché son allocation pour son fils de 9 ans qui va rentrer à l'école. Malheureusement, elle devait 280 euros à EDF et ils l'ont prélevé. Elle est retournée à la banque aujourd'hui chercher des sous. Elle s'est retrouvée avec plus que 45 euros. Alors elle les a appelés en leur disant que quand même, elle ne savait pas, elle pensait qu'on avait peut-être pas le droit de prélever comme ça les allocations qui sont faites pour la rentrée d'un enfant pauvre. Mais alors la EDF a dit que c'était pas leur faute, que c'était leur faute de la banque. La banque, en l'occurrence, c'est la Poste. Et la Poste dit que c'est pas non plus leur faute. Alors voilà. Et à côté de ça, voilà, les informations nous parlent de la maladie de Johnny, qui est un peu cher. Il était à Saint-Barth, et puis il a une bronchite. Il a fallu qu'il prenne un olico pour aller je sais pas où, pour qu'on lui soigne ses trucs.
Bonjour, je suis un fidèle auditeur de vos émissions et également abonné au journal Fakir. Avant les vacances, le collectif Pièces et Main d'œuvre avait lancé un petit pavé sur la gauche de gauche en leur reprochant, à vous notamment et à François Ruffin, de défendre l'emploi à tout prix, même au prix parfois de vies humaines, en particulier dans l'industrie. Certains ont appelé ça une polémique, moi je trouve que c'est au contraire une discussion salutaire et même incontournable. Alors grande surprise, à la réception du dernier numéro de Fakir, pas une ligne sur le sujet. Donc voilà, j'espère que sur quelque chose d'aussi important, vous ne botterez pas non plus en touche à la base si j'y suis. Ça pourrait faire une sacrée ou des sacrées séries d'émissions sur des thèmes comme la finalité du travail, la société de consommation, le productivisme, la décroissance, et aussi sur le manque de recul de nombreux militants sur tous ces sujets. Salut, c'était Jean-Philippe de Saône-et-Loire.
Salut Mermet, je trouve que tes vacances elles ont été un peu longues, hein. Puis là, je viens d'apprendre que l'émission a beaucoup de succès et que tu gagnes ta quote-part au niveau des auditeurs. Alors donc, moi, j'ai une question à te poser, tu vois, il est 2h du matin, là, je suis sur France Inter, que ce soit entre 1h et 2h et entre 2h et 3h, je suis sûr qu'il n'y aura pas de rediff de Mermet. Alors, pas très logique, quoi. Ton émission qui fait des scores faramineux, France Inter n'est pas capable de la repasser une deuxième fois dans la nuit. Ouais, je trouve pas ça normal. En tous les cas, il y a la grande fête annuelle qui va pas tarder, la fête de Lima. Et puis, je lance les invitations. Tu es invité au stand du Gers, voilà. Tu goûteras le foie gras, tu goûteras le magret, et puis il y aura toujours une bouteille de Bazar Maniac.
Harmonia, Liberta, Liberto, Germinal, Floreal, voilà ce type de prénom. Cette photo, je l'avais toujours à mon travail, c'est Rosa Luxembourg jeune, et je disais à mes chefs que c'était ma grand-mère. Ils ne connaissaient pas, il faut tromper l'ennemi.
Les travailleurs ne doivent pas faire les frais de la crise. Il faut créer des emplois et augmenter les salaires en prenant sur les profits.
Vous savez, on dit souvent que l'IA, ben c'est la seule façon de s'enrichir sans exploiter personne. Harmonia, Liberta, Liberto, Germinal, Floreal, voilà ce type de prénom.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que je suis avec Sarah Lefebvre. Un jour dans la vie d'Harmonie, une mémoire ouvrière.
Les travailleurs ne doivent pas faire les frais de la crise. Il faut créer des emplois et augmenter les salaires en prenant sur les profits.
Aujourd'hui, c'est Harmonie. On est à la sortie du métro Église de Pantin, c'est sur la ligne 5. On est au nord-nord-est de Paris, dans la banlieue toute proche de Paris.
Il faut défendre un programme vital, des revendications vitales pour le monde du travail. Bonjour.
Bonjour Harmonie.
Je vous présente les camarades.
Alors vous êtes une petite dizaine là.
Voilà, Monique, Nathalie.
Bonjour. Bonjour Madame Arthaud.
Enchantée.
Voilà Eric, notre attaché de presse.
Bonjour.
Voilà. Hein, Pierre Royan.
Donc de bonne heure là, il est 7h30.
Il est 7h30, ben voilà, alors quand les travailleurs sortent de chez eux pour aller au travail, eh bien voilà, on discute. Voilà, c'est le monde du travail qui se lève tôt et qui fait tourner la société, hein. Ceux qui travaillent vraiment. Voilà. Bon, les gens vont arriver là petit à petit. Là. Je vais donner au monsieur là, le chauffeur de taxi.
C'est qui, c'est Arlette c'est ou c'est Nathalie, Nathalie. Ah, c'est
voilà.
Nathalie
Non, Arlette, voilà.
Arlette, elle est en retraite maintenant, alors.
Oh, elle est en retraite, mais elle est toujours là.
Non, mais de toute façon, ça y est, on a voté. Hein. Le changement, c'est maintenant. Hein. On a voté, ça y est.
Oui, mais monsieur, vous savez...
C'est la même chose, Sarkozy et, et Hollande. C'est la même chose, la même politique.
Voilà, parce
qu'il n'y a rien qui va changer.
Vous savez, on n'a pas viré les patrons, les capitalistes, les banquiers, ceux qui dirigent vraiment...
Les 200 familles qui dirigent la France.
Oui, bah vous avez raison, avant
je
on disait...
Je connais bien le truc, hein, j'ai travaillé pendant 24 ans chez Total,
à la voilà, Défense. Total numéro 1.
Avant de me mettre bah je connais. On ne peut plus rien faire, il faut la révolution.
Exactement, il faut la révolution, mais ça se prépare. Hein, il faut en discuter, il faut une révolution.
La Bastille, les anciens. Ça, c'était la révolution. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aux urnes, on vote, et c'est les mêmes. Exactement. Non, c'est pas ça. Il faut sortir les épées.
Mais monsieur...
Et là, ça change.
D'accord, mais hein, il faut construire un parti. Il faut faire une révolution consciente, défendre nos intérêts, construire un parti qui défende les intérêts des travailleurs.
Très bien. Vous êtes à combien? À 2%?
On est à 2%, mais ça va changer. Rejoignez-nous.
Arlette, depuis 1970, elle fait de la politique.
Qu'est-ce que c'est à l'échelle de...
C'est la première femme qui s'est présentée.
Première travailleuse.
Oui,
première femme.
Première toute son histoire. Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
Qu'est-ce que ça a donné?
Ben, ça n'a rien donné du tout.
Ça a donné qu'on nous sommes là ce matin, on discute avec vous et on continue
moi,
toujours.
Je ne vous en veux pas, madame. Moi, je respecte lutte ouvrière. C'est très, très bien, mais
bon,
je vous dis...
Et surtout, ne pensez pas qu'on ne peut rien faire. Rejoignez-nous, restez en contact avec nous, on sera plus nombreux.
Si vous avez besoin de moi,
vous
pouvez me rejoindre.
Ok. Moi, je m'appelle Harmonie, au fait. Voilà.
Harmonie, ben, enchantée.
Voilà, je suis de Pantin.
Moi, je vous souhaite du courage. L'union fait la force, comme on dit.
Discutez avec vos clients, essayez de les convaincre. Hein, demandez-leur de voter pour nos candidats et surtout d'avoir conscience qu'ils doivent défendre eux-mêmes leurs propres intérêts. Je viens d'entrer dans ma 68e année et jusqu'à la fin de ma vie, tant que j'aurai des forces, je défendrai la classe ouvrière.
Banlieue rouge. Banlieue rouge, qui sait aujourd'hui que là où nous sommes, à l'église de Pantin, à Pantin et autour, c'était tout autour de Paris, la ceinture rouge, là c'était spécialement la banlieue rouge. Qui sait ce que ça veut dire encore aujourd'hui? De moins en moins, sans doute. de Françaises et de Français et d'habitants même de ces banlieues ont souvenir de cette banlieue rouge. Banlieue rouge au temps où il y avait une classe populaire, une classe ouvrière qui espérait, qui avait un horizon, un grand horizon, un grand rêve, qui n'est pas encore réalisé certainement. Et si vous voulez faire rire dans un dîner, quand vous rencontrez des amis, ou dites que vous voulez changer le monde et vous ferez rire les gens, ou bien on vous considérera comme quelqu'un d'un peu dingue. L'historien américain Howard Zinn cite Albert Camus. Et selon Zinn, Camus disait « Ceux qui veulent changer le monde sont peut-être fous, mais ceux qui ne veulent rien changer sont certainement des lâches. » Jugement moral abrupt de Camus, repris par Howard Zinn. N'empêche, combien sont-ils aujourd'hui à vouloir changer ce monde ? Non pas, on le disait déjà hier, et on le dit souvent, simplement enlever un fruit pourri de ci, de là, couper une branche morte, mais véritablement changer les choses, ou avoir pour horizon de changer les choses. Ce rêve-là, il était fréquent, on l'entendait souvent. On sait comment ce rêve a été dévoyé, usurpé, trahi par une élite politique, une élite intellectuelle aussi. N'empêche, il y a quelque chose qui subsiste et qui persiste, un espoir. Et cet espoir, Harmonie le porte toujours aujourd'hui. Alors elle a ce nom étonnant, étrange. Vous allez voir le lien avec l'histoire évoquée par l'auditrice sur la guerre d'Espagne. Et nous passons cette heure donc avec cette dame, Harmonie, rencontrée par Sarah Lefebvre. Et avec cette petite phrase en tête et en tête de rayon, nous ne voulons pas vous faire pleurer sur les victimes, nous voulons simplement pendre les bourreaux.
Partager les baisers, les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau, Arlette, it be, Arlette's go. Quand Arlette chante, c'est du bleu, de l'azur, sur les usines et leurs grands. Les paroles, bien sûr, ont beaucoup d'usure, mais elle chante avec un air pur. Elle nous suggère la guerre et pas la paix, que sur la terre, les hommes sont des frères. Arlette. Quand Arlette chante, on sent du vrai amour.
Par contre, la gare, qu'est-ce qui vient à la gare
oui.
ce soir?
On sera nombreux. Moi, on sera nombreux à la gare.
Je voudrais bien que quelqu'un amène le panneau et les drapeaux.
Mais il n'y a aucun souci. Hein,
c'est bon, le panneau en gare.
Et les journaux, tu en as encore, Eric?
Ils sont là, regarde.
Ah, il y a pas tant
de plein. Nos soucis.
D'accord.
Donc là, on remballe alors. Vous allez tous travailler.
Les copains vont au travail. Moi, j'ai honte, mais je suis retraitée. J'ai beaucoup travaillé quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous?
On va chez vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Par là.
Et donc vous habitez pas loin de l'arrêt de métro Église de Pantin?
La deuxième rue, là, à droite, oui. Voilà.
Moi, je me pose une question quand même. Pourquoi Harmonie?
Oui, en fait, c'est sur l'état civil, c'est Harmonia. C'est à l'espagnol. Parce que c'est mon père qui m'a déclaré. Et Et voilà, les anarchistes espagnols donnaient ce genre de prénoms à leurs enfants. Ils ne voulaient pas donner des noms de saints, des noms du calendrier, parce que d'une part, évidemment, ils étaient athées. Et moi, j'ai des camarades comme moi qui s'appellent Harmonia, Liberta, Liberto, Germinal, Floreal. Voilà ce type de prénoms. Et ceux qui sont restés là-bas, on les a débaptisés, enfin on les a plus exactement renommés et obligés à prendre des noms du calendrier, Maria, je ne sais pas quoi, et les baptiser d'ailleurs, parce que le baptême était obligatoire en Espagne. Voilà, moi je ne me suis pas baptisée, bien sûr. Ça y est, on est arrivé.
Alors là, c'est votre quartier.
Voilà, là, c'est la rue Maurice Borot. Maurice Borot, c'est un jeune communiste de 18 ans qui a été tué à la libération de Paris. Voilà, d'ailleurs, on connaît son histoire.
Ouais, c'est une rue pour vous, quoi.
Je voudrais pas vivre dans la rue Thiers. Hein, rue de la Commune de Paris, ça me plairait beaucoup. Mais Maurice Borot, oui. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Un de mes voisins.
Bonjour.
Je m'occupe de l'amicale aussi, ici. Vous voyez, CNL, amicale des locataires.
Madame Borde.
J'ai été élue présidente. Pour une fois, j'ai été élue présidente. Ça va, c'est arrêté la fuite, monsieur.
Vous savez, jeudi.
Vendredi maintenant. Mais vous savez, vous pouvez lui téléphoner. Elle écoute son répondeur. Monsieur est un électeur d'Arlette aussi.
J'ai connu Arlette, moi.
Voilà, il habitait au Lila avant.
Allez, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Voilà. Il travaille dans un centre d'appel, vous savez. Petit salaire et c'est pas facile comme travail. J'ai des voisins sympas. Ah, c'est pas le coffre-fort, hein, mais... Non, mais j'ai été cambriolée. Mais... Bon. Comme ça.
Il y a trois serrures.
Je n'entends pas grand-chose, mais...
Oh, il y a plein de livres partout.
Oui. Bah alors, les drapeaux, voilà. Ça, c'est hein, les travailleurs de Pantin avec Nathalie Arthaud. Les drapeaux rouges sont là. Les livres, eh bien, ma famille un peu, voilà, Léon Trotsky, Karl Marx, voilà. Ça, c'est une affiche qui a été faite par un parti trotskiste argentin, et c'est le texte du manifeste en espagnol, qui dessine le portrait de Karl Marx, c'est une belle affiche.
El manifiesto del Partido Comunista.
Voilà, 1848. Léon Trotsky, là-haut. Et une vieille affiche de lutte ouvrière, de voix ouvrière, pardon, je dis...
Ça s'appelait Voix ouvrière à l'époque.
Parce qu'avant 68, Voix ouvrière a été dissoute et est réapparue Lutte ouvrière. En juillet, je crois, c'était Lutte ouvrière. Voilà, une affiche qui se termine, Révolution socialiste mondiale.
Dans la ligne de la révolution russe d'octobre 1917.
Des premières années de l'internationale communiste, de la lutte de l'opposition de gauche contre le stalinisme, du programme de transition au programme de fondation de la 4e internationale. Voix ouvrière lutte pour regrouper tous ceux qui militent sur le terrain de la lutte des classes, reconstruire l'internationale révolutionnaire nécessaire pour que puisse triompher la révolution socialiste mondiale. Voilà, une belle affiche.
Ça n'a pas changé, en fait.
Ça n'a pas changé. Voilà, moi, j'aurais fait ça de bien dans ma vie, en tous les cas, c'est de rejoindre le combat des camarades de voix ouvrière. Je n'ai jamais été déçue, ça a toujours été la défense du prolétariat mondial. Et là-haut, l'été dernier, je suis allée à Madrid et j'ai vraiment... était très impressionnée par le tableau de Picasso, Guernica, bon, que je connaissais en reproduction, mais que je n'avais jamais vu en vrai, quoi. Et j'étais très, très émue, très... À Madrid, il y a une salle entière, ce tableau est immense. Et évidemment, moi, j'y mets des choses que peut-être d'autres n'y mettent pas. Hein. C'est la lutte du prolétariat espagnol. Donc j'ai mis cette reproduction aussi. Cette photo, je l'avais toujours à mon travail. C'est Rosa Luxembourg jeune. Et je disais à mes chefs que c'était ma grand-mère. Vous ne connaissez pas. Faut tromper l'ennemi.
Vous avez des étagères sur tous les murs. On peut s'imaginer un couloir avec tout un pan d'étagères. Du sol au plafond. Oh, il y a une autre pièce avec que des livres.
Deux épaisseurs de livres.
Vous avez une idée du nombre de livres que vous avez chez vous?
Non. Non, non. J'en ai lu un certain nombre, bien sûr. Pas tout encore, mais on essaye. Pour nous, la lecture, c'est très important. Vous savez, on dit souvent que lire, c'est la seule façon de s'enrichir sans exploiter personne. Et vraiment, on s'enrichit parce que d'abord, on découvre les idées, on apprend, et puis on découvre la vie d'autres travailleurs. On ne peut pas vivre toutes les vies. Et les idées aussi, c'est important. Il faut lire. Se cultiver, parce que bon, moi j'ai pas été à la faculté, j'ai jamais fait d'études, mais bon, j'ai appris beaucoup grâce à mes camarades, grâce aux livres. Et
vous avez travaillé très jeune alors?
Oui, j'ai le certificat d'études, j'ai passé le brevet en candidate libre. Moi, mes parents voulaient que je sois dans les bureaux, c'était moins dur que l'atelier, hein. Voilà, je suis devenue une très bonne dactylo. J'avais dans les 17 ans par là, un peu moins peut-être, je me rappelle, enfin j'ai commencé même plus tôt, parce que mon premier boulot, en réalité, c'était vendeuse au magasin Réuni, au rayon lingerie féminine. J'avais 14 ans. Je me souviens, à l'époque, bon, les chefs étaient sur des hauts tabourets, les vendeuses en étaient là. Il fallait accompagner les clientes qui achetaient un soutien-gorge dans les salons d'essayage. Et moi, j'étais une gamine et on me demandait, alors ça me va, j'étais toute rouge. Et puis après, j'ai travaillé dans un pool dactylo. Et à l'époque, il n'y avait pas des photocopieuses. Et on tapait, les boîtes faisaient des relances par courrier. Il fallait que ça apparaisse comme un courrier personnalisé. Alors on tapait ça, on tapait 800, 900 fois, 1000 fois la même lettre. Alors on pensait, les doigts partaient tout seuls et on discutait, on chantait. Et bon, là, j'ai découvert quand même l'exploitation. Je l'ai vécu personnellement parce que, bon, on avait des petites payes, c'était dur le boulot. Il y avait ces lettres qu'on répétait 1000 fois. Il fallait taper comme des sourdes là-dessus parce qu'il fallait taper fort. Voilà, j'en ai gardé des tendinites maintenant. Et je me souviens, les chefs nous appelaient toutes Miss. Hein, on était une vingtaine de filles là, mais ça prenait même pas notre nom. Tout ça fait que, bon, vous voulez changer tout ça. Et puis après, moi, j'ai rencontré les camarades des marxistes. Hein, et là, j'ai compris que c'était que la classe ouvrière qui pouvait changer cette société. Voilà. Le capitalisme, ça a toujours exploité les travailleurs, quelles que soient les périodes, même en période où ils ne sont pas en crise. Eh bien, qu'est-ce qui retombe pour les travailleurs? Des petites miettes de rien du tout. C'est ça, la réalité.
Et avec votre retraite de dactylo, vous gagnez combien aujourd'hui?
Chez Roussel, il cotisait quand même un peu au maximum, voilà. J'ai 1200 euros de la sécurité sociale, plus la complémentaire. Voilà, mais les loyers sont devenus très très chers. Hein. Ici, on paye à deux 950 euros. Mais là, j'ai une vieille voiture d'occasion que j'ai achetée pour transporter ma mère qui était âgée. Et c'est tout, hein. On ne possède rien. Une vie de travail, vous ne possédez rien. Vous êtes bien content de ne pas avoir de dettes.
L'eau pimpante sort du métro, souriante, le petit trône. Elle arrive au bureau et chante.
Le directeur, sérieux, très très pressé, soucieux, regarde l'heure et commence à dicter, messieurs.
La dactylo
soupire,
vit en ses noms,
sans rire,
note des mots, encore des mots.
Marty,
quand c'est fini,
assez,
c'est pas fini.
Allez,
faut tout taper avant midi.
Les 10 doigts dansent, les 10 doigts claquent, et tapent des lettres en vrac, et tac, et tac, et tac, et tac, crac.
Le directeur se repose, il regarde la dactylo, la dactylo toute rose, et dit, oh, quel beau bibelot.
La dactylo, très digne, tape au galop, aligne, des mots, attire l'arigot, virgule.
Le directeur, câlin, la bouche en cœur,
gamin,
met son pince-nez, l'invite à déjeuner, crapule.
Elle le répond sèchement, non merci non, et pense, sans s'arrêter, de taper son courrier, virgule, sur le clavier, sans frein, elle fait danser ses mains, et c'est un vrai petit pelé.
Tac,
S'il recommence, lui donne une claque. Ah mais...
Ça c'est la musique. Voilà, les musiciens. Moi j'aime surtout Beethoven. Sa jeunesse c'était la Révolution française. Et je pense que c'est un compositeur qui composait en ayant l'humanité dans... En lui, voilà, c'est une... moi ça me touche beaucoup. On dit toujours quel disque tu emmènerais dans une... sur une île déserte, et moi ça serait les chants ouvriers, les chants de lutte du monde entier et les symphonies de Beethoven. Cette chaîne-là, c'est mes camarades qui... de travail qui me l'ont offert quand je suis partie en retraite. Ah oui, alors je suis pas très experte dans tous les trucs techniques. 2, 3. C'est celui-là, voilà, c'est celui-là, voilà. C'est le mouvement lent, la 7e symphonie de Beethoven. Mais après, il y a un mouvement qui est très beau. Ça, c'est moi, jeune.
À Roussel-Uclab ?
Oui.
Vous êtes où ? Vous tenez la pancarte ?
Mm-hmm.
Tout devant. Non aux 1000 licenciements à Roussel-Uclab, c'était quand ça ?
Je pense que c'était dans les années 70, hein, 71.
Là, vous militez sous la pluie, vous avez des parapluies, des capuches,
oui,
la photo est noir et blanc.
Et mes camarades sont encore là, on est tous plus jeunes, voilà.
Et alors, il y en a encore qui militent là avec
Bien
vous
sûr, là, il y a Michel qui est là, il y a Jean-Louis, je le vois pas, mais il est là. Bon, lui, il est décédé par exemple, c'est un camarade de la CGT. Lui, c'était un maoïste qui était rentré établi. Lui, il est parti dans le Larzac. Bon, c'était des copains. Voilà, c'était...
C'était l'intersyndicale CGT-CFDT-FO.
C'était des militants, c'était... Voilà, et là, cette fois-là, ils ont acheté une usine qui s'appelait Diamant et ils l'ont fermée, voilà. Ils ont récupéré la marque.
Roussel-Uclef.
Voilà, mais... On est encore là, nous tous, en tous les cas, ceux de la lutte ouvrière. Bon, à la retraite, maintenant. Ils ont fermé le gros de la boîte, là, au moment d'Aventis. Nous, on a été licenciés à ce moment-là.
C'était quand, ça ?
C'était il y a une dizaine d'années. Et comme nous, les plus anciens, eh ben, on a eu la pré-retraite, là. Voilà, et puis maintenant, c'était Fourtou qui était... PDG à l'époque, là, quand ils ont racheté HMR, ils avaient deux sites un peu identiques avec des fabrications, un centre de recherche ici à Romainville et un autre à Vitry. Eh bien, au lieu de garder les deux, hein, parce que dans les deux, il y avait des travailleurs, il y avait des productions, il y avait utiles, il y avait des chercheurs. Bon, ils n'avaient pas de problème d'argent, bien au contraire. Et ils ont quand même choisi d'en fermer un des deux, mais ils ont choisi de fermer celui-là, celui de Romainville. Voilà. Et on a lutté de toutes nos forces, mais bon, vous savez, quand on lutte boîte par boîte, c'est difficile, hein. Il faudrait que tout le monde s'y mette.
Et c'est combien de personnes ?
Moi, quand j'ai été embauchée, on était 4000 presque là, oui.
Et quand ça a fermé ?
Quand ça a fermé, on était déjà moins parce qu'ils avaient déjà emmené une partie en province. On était plus de 2000 en tous les cas, hein. Peut-être 2005, je ne sais plus exactement. Et maintenant, il reste 30 personnes.
L'usine chimique Roussel-Uclave, près de Paris. Dans cette usine, on produit des composants de médicaments.
France 3.
Roussel-Uclave emploie 6500 personnes dans toute la France.
25 mai 1979.
C'était une entreprise familiale jusqu'il y a 4 ans. À ce moment-là, Hoechst de Francfort a acheté la majorité des actions. Le deuxième producteur chimique en France s'appelle aujourd'hui Hoechst. Non seulement des firmes puissantes comme Hoechst qui ont toujours planifié au-delà des frontières, mais aussi de plus en plus de petites et moyennes entreprises installent des succursales ou bien achètent des actions dans les autres pays membres de la communauté. La formule promet des avantages considérables, nouveaux marchés, transports plus courts, facilité de crédit, etc. Les salaires et les conditions de travail n'en souffrent pas forcément, comme on le constate ici.
Savez-vous à qui appartient cette entreprise ?
Les deux laborantines sont informées. Elles ont lu une circulaire qui leur apprend que Hoechst possède la majorité.
Avec Hoechst ? Oui, oui, c'est ça, avec Hoechst.
Qu'est-ce que l'on peut répondre ?
Le technicien n'a qu'une idée vague de la nouvelle répartition des actions.
Enfin, je pense qu'à notre niveau, il est assez difficile de déterminer le contexte exact de participation de Hoechst.
J'ai acheté cette voiture à une collègue quand j'ai été licenciée, j'ai eu 10 sous un peu, et pour transporter ma mère. Moi, j'écoute toujours Radio Classique en voiture. La musique, parce que les infos, si, c'est intéressant pour connaître le point de vue de la bourgeoisie, parce que... Voilà, on a tout ça, c'était eux, voilà. C'était une famille, hein, une famille bourgeoise française, hein, la famille Roussel. Et ils ont rebaptisé la rue Gaston Roussel. Voilà.
Elle s'appelait comment avant ?
La route de Noisy, parce que tout droit, on arrive à Noisy-le-Sec. Tout ça, c'était...
Donc il y avait vraiment toute la rue qui était occupée ?
Toute la rue, pratiquement, et il n'y avait que des blouses blanches, la cantine était là-bas. Et au coin là-bas, il y a aussi la crèche de l'entreprise, qui était, je crois, une des premières crèches d'entreprise. Parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrières dans cette usine, hein. Le conditionnement se faisait tout à la main. Et les filles avaient les mains plus fines, plus vives pour conditionner. Et la famille Roussel avait ouvert une crèche, je crois, dans les années 47.
Et c'était un patron paternaliste ?
C'était un patron paternaliste et de combat en même temps, parce qu'il ne tolérait pas les syndicats. Il a fallu se battre pour avoir un local syndical. Il avait créé un réseau de correspondants de secteur pour court-circuiter les délégués du personnel. On a tous été victimes de brimades, d'isolement. C'était la tactique de la boîte, d'isoler... La camarade qui a mis l'usine en grève en 68, après les grèves, a été isolée dans un laboratoire, sans travail.
C'est-à-dire, elle faisait quoi ?
Elle faisait rien. Moi-même, j'ai passé 3 ans isolée en dehors de l'usine, là-bas, dans un petit bureau. J'avais une collègue qui avait un peu de travail, moi, on ne m'en donnait pas. C'était pour écœurer, pour nous faire partir.
Et vous avez tenu quand même 3 ans à rien faire ?
Oui, mon chef, c'était le candidat UNR de la droite, bien facho, là... Il m'avait dit, vous ne me ferez pas long feu dans la maison, madame. Je lui avais dit, vous partirez peut-être avant moi, monsieur. Et, bon, il est mort de maladie, mais... Je crois que je suis restée 31 ans, un peu plus de 31 ans, ouais. Tous les jours. Ils sont en train de fermer tout ça. C'est fini.
Donc ça a fermé il y a une dizaine d'années.
Oui, je crois que la grande fermeture... Alors, ils n'ont laissé qu'une petite unité qui est en face, on va passer devant, qui est de la fabrication biochimique. Il y a des fermenteurs, mais il y a un plan social, ça s'arrête. Et je crois qu'il y a un repreneur pour quelques activités, mais avec très peu de personnes. Là, l'hémostyle qui était fabriqué là, c'est un sirop fortifiant qui se faisait à base de sang de cheval, je crois. Je connais bien un ouvrier qui travaillait là, c'était un ouvrier sénégalais et... C'était un boulot difficile parce que c'était des cuveaux énormes, 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 des milliers de litres de sang de cheval qu'il fallait travailler pour arriver à faire ce sirop. Bon, ça soulevait le cœur.
Il paraît que l'odeur était très très forte ici.
Oui, oui, ah bah oui, oui, parce que les fermenteurs et puis même c'était classé Céveso pendant un moment. Hein. C'est d'ailleurs aberrant, une usine comme ça en pleine ville. La chaufferie, voilà, là il y avait beaucoup d'amiante, voilà. Et il y a eu un ouvrier déjà qui est mort, Et d'autres ont des plaques pleurales. Moi aussi, j'ai des plaques pleurales. J'ai dû respirer ça en circulant. Et de toute façon, de l'amiante, il y en avait partout dans les bâtiments. On a des collègues qui sont décédés. Voilà, c'est une des saloperies du capitalisme aussi. C'est d'empoisonner les travailleurs.
Avec tes toits en dents de scie, tes longs murs droits, toujours tout droit, la voix qui lui dit où je dois, jour après jour, gagner ma vie. J'ai débuté à 14 ans, je n'étais encore qu'une. de la sirène commença ma première semaine. Réveil, partir, courir, pointer, contact, turbine, bobine, métier, le jour, la nuit, tenir, souffrir, pâlir, faiblir, vieillir,
Bon, ça, c'est des photos de famille, un peu.
Et alors, montrez-moi celle-ci, là, que vous avez mise de côté.
Là, c'est marrant parce que, voilà, c'est moi.
Ma mère bébé.
Et moi, bébé, et ma fille et moi, et ma fille et son petit garçon.
Il y a les trois générations de maman.
Trois générations, voilà.
La vie d'harmonie, un jour dans la vie d'harmonie, c'est avec elle qu'on passe 7 heures. Et évidemment, tout le monde a été surpris de l'entendre écouter Beethoven, hein, la 7e symphonie de Beethoven. On se dit, bah non, mais ça cadre pas, ça. Beethoven, c'est la musique classique, et ça, c'est les choses plutôt des, de la bourgeoisie, quoi. Mais non, vous oubliez quelque chose, c'est que c'est strictement marxiste que de s'intéresser à ben ça, par exemple. N'oubliez jamais une phrase étonnante de Marx qui disait « Le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. » Ah, ça c'est costaud. C'est-à-dire qu'à côté de ce qu'on croit être la cause, le côté militant, militaire, qui se préoccupait entièrement de stratégie, d'avancée, de lutte, etc., et il y a de temps en temps une pâquerette bien attirante, quelque chose qui ne relève pas forcément de la stratégie, de la science économique, de la raison, de l'histoire, de la mémoire, mais qui est autre chose. Et cette autre chose là, ces vieux penseurs, celui-là, ce Marx y avait pensé, il avait bien pensé qu'il y avait autre chose, qu'il y avait aussi de l'inutile, et qu'il y a une utilité de l'inutile, comme dit l'autre, et que cet inutile là qui a été transformé en objet de consommation et de distinction. C'est ça qui nous a surpris lorsque Harmony écoute Beethoven. Elle dit ben, Beethoven égale distinction. Eh ben non. Écouter Beethoven, c'est écouter pousser l'herbe.
Elle vous ressemble un peu, votre fille, hein ?
Peut-être. Une jolie brune, voilà, sympa, sympathisante de nos idées, bien sûr, qui a été candidate aussi au municipal avec nous, qui a accompagné ma vie militante, hein, voilà.
Comme vous, vous avez accompagné celle de vos parents ?
Voilà, celle de mon père, qui malheureusement s'est terminée tôt, hein, mais... Mon père m'emmenait aux réunions anarchistes et à toutes les... de la CNT, hein, puisqu'il a continué toute sa vie à militer ici.
Quand est-ce que vous êtes arrivée en France, toute la famille ?
Moi, je suis née en France. Moi, je suis née en 45.
Eux, alors, ils sont arrivés
Mon père est arrivé en 39, quand Franco a pris le pouvoir. Ils ont passé les Pyrénées à pied. Ils ont été mis dans des camps de concentration. Mon père était à Argelès. C'était un grand camp sur les plages d'Argelès-sur-Mer, dans des conditions atroces. Là, il mourait des réfugiés tous les jours. Il y avait les maladies, les poux, il n'y avait pas d'abri, il y avait... rien n'était organisé. On les a mis dans des camps et c'était la chambre du Front Populaire qui a pris cette décision. Et après, le travail forcé, Vichy les a mis en prison, mon père était en prison à Foix, le travail obligatoire. Je me souviens pas, mais je pense qu'il a connu ma mère dans cette dynamiterie, hein, où ma mère travaillait à l'usine de Pauly et où on a amené beaucoup de ces réfugiés espagnols travailler de force.
Donc votre mère était française ?
Ma mère était française, catalane, née dans le port de Port-Vente, puisque son père était le gardien du phare. Et mon père a milité toute sa vie. Après, il est venu à Paris et nous habitions dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Parisien. C'était un hôtel près de Belleville. Et chaque famille avait une chambre, hein. On vivait beaucoup les portes ouvertes. Moi, on m'appelait la petite souris de l'hôtel. La ratita de l'hôtel. Parce que j'allais dans toutes les chambres, je connaissais tout le monde. Qu'est-ce que ça a été, les Trente Glorieuses? Ma mère, quand les sous qu'elle gagnait en faisant ses ménages, elle allait les dépenser pour acheter à manger. Pour le jour même, on vivait au jour le jour. Quand mes parents sont acheté un frigo, pour la première fois, un frigidaire, il y avait une plaque de beurre, une bouteille de lait. Elle cousait pour un atelier de confection à la maison. Elle portait ses gros baluchons là, de pantalons. Elle cousait les fermetures éclairs, les gros grains à la taille. Et puis elle faisait des ménages. Quelquefois, le jeudi, elle m'emmenait chez une de ses patronnes. Et je revois ma mère astiquer ce magnifique piano là. Et je revois la patronne passer le doigt derrière ma mère. C'était quoi les Trente Glorieuses pour les ouvriers? Bon. D'avoir du boulot, et encore pas toujours. Mon père a eu des périodes de chômage.
Qu'est-ce qu'il faisait, votre père?
Il a travaillé au hall, il a travaillé dans le bâtiment où il a été accidenté. Hein, et il a eu le col du fémur écrasé. Ça n'a pas été reconnu un accident du travail. Je ne sais pas s'il avait un contrat de travail, ça je ne sais pas. Mais du coup, il avait une jambe plus courte que l'autre et il boitait un peu avec une chaussure orthopédique. Mais comme il avait beaucoup de volonté, bon, le médecin lui avait dit que... En marchant beaucoup, ça s'atténuerait. Il a réussi, c'était ça. Et puis on achetait des fois à crédit. Ma mère m'a envoyé des fois acheter à crédit quand elle n'avait pas de sous. Et je me rappelle de la crémière qui me disait, m'a dit, tu reviendras quand ta maman t'aura donné des sous. Qu'est-ce que c'était les Trente Glorieuses? Être mal logé, avoir une petite paye de rien du tout, partir pas toujours en vacances. Moi, je passais combien de vacances au square à République, là, au square de la Grisette? Et les mômes du quartier, on allait jouer dans le métro. J'ai peur des vaches, mais j'adore le métro. Hein, parce qu'on descendait les escalators dans tous les sens, on courait dans les couloirs. À l'époque, il y avait des portillons automatiques. Le jeu des gosses, là, c'était de passer quand le portillon se refermait... Je me rappelle que quand la collection des livres de poche est sortie, ma mère me laissait 5 € le jeudi pour manger, m'acheter à manger. Et d'ailleurs, souvent, je ne m'achetais pas à manger parce que j'ai commencé à collectionner les livres de poche. Voilà, j'avais tous les premiers numéros, je m'achetais tous les jeudis un livre de poche. C'était formidable, les livres de poche, quand c'est sorti. Bon, moi, j'aimais lire, j'allais m'acheter des frites. Et quand on partait en vacances, on partait dans le pays de ma mère, là-bas, à Port-Vendre. Et...
À côté de Perpignan.
Voilà. Et mes parents se privaient toute l'année pour ça. On s'achetait des habits un peu neufs que pour les vacances. Hein, et ma mère, déjà 2-3 mois à l'avance, elle avait la valise ouverte sur une chaise. Et puis, de temps en temps, elle achetait un habit neuf qu'elle mettait dans la valise. C'était les fameux congés payés. On avait des billets, 30% de réduction. Même ça, ils ont supprimé. Hein, et puis j'allais souvent en vacances chez ma tante qui habitait Orly parce que mon oncle travaillait à Air France. Ils étaient logés dans une HLM là près de l'aéroport. Et alors ma tante, elle achetait beaucoup à la Samaritaine et avec les bons de la semeuse. C'était un système de crédit du magasin et à l'époque le receveur passait à domicile. Et je peux vous dire, quand le receveur passait encaissé, alors c'était une traînée de poudre dans l'immeuble. Attention, il y a le receveur qui arrive et là, quand il sonnait, il n'y avait personne. Et puis comme ça, la famille gagnait, ils revenaient la semaine suivante, on gagnait une semaine. Leurs Trente Glorieuses, vous savez, c'est du baratin. Bon, il y avait moins de chômage, bien sûr, mais la vie était dure aussi.
Quelle chance vous avez !
Eh oui !
Quelle chance vous avez !
Ça y est !
Quelle chance vous avez !
Vous l'avez, votre première dauphine !
Et vous avez pu l'acheter grâce au crédit premier départ offert par Renault.
400 francs à la commande.
1108 à la livraison.
Et rien à payer pendant 3 mois.
Ouf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100.
Aucune maman de l'immeuble n'a eu de place, voilà. C'est pénurie de crèche.
Là, on est sur le balcon. Et donc, on donne sur la crèche. Et là, il y a tous les petits enfants qui sont en train de jouer dehors.
Les enfants, j'adore les entendre pousser des cris. Là, c'est des immeubles où il y a beaucoup de travailleurs de la RATP. Et ce bâtiment rouge, là, c'était la manufacture des tabacs où étaient fabriquées les cigarettes. Il y a eu une lutte au moment de la fermeture. Et voilà, un quartier ouvrier, quoi. Et ici, on est tous logés, soit par la préfecture, soit par le 1% patronal. On était plusieurs de Roussel-Uclaf à habiter ici. C'est quand même assez grand, hein.
Il y a une chambre, oui. Un débarras, un bureau.
J'avais ma fille, j'avais ma mère.
Vous viviez ici avec votre maman ?
Oui, ma mère est venue là. En fait, ma mère avait un petit logement, tout petit, au 4e étage, sans ascenseur, dans le 11e. Et quand elle a été opérée du cœur, la cardiologue a dit qu'elle ne pourra pas remonter ses étages. J'ai donc fait vite une demande à l'entreprise où je travaillais, et il y avait ce logement libre. Donc j'avais ma fille et bon, une chambre pour ma mère. On est venu là. Et puis ma mère, au bout de 2 ans, a récupéré, et puis elle a voulu retourner dans son petit logement 4e sans ascenseur, sans toilette, sans eau chaude, sans chauffage. Mais enfin, c'était chez elle. Ça fait 2 ans qu'elle est décédée, ouais. Puis elle a terminé quand même la dernière année de sa vie à la maison de retraite, parce qu'elle supportait plus de rester seule. Moi, quand je partais en activité, elle pleurait. Bon, j'allais tous les jours la voir, elle venait le week-end ici. Et puis, les maisons de retraite, c'est aussi un scandale de cette société. Voilà comment on traite les personnes âgées. Je me suis inscrite là-bas au conseil de vie familial, c'est-à-dire que comme représentante des familles, on est en conflit avec le directeur parce qu'ils font pas ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que là aussi, il y a des impératifs économiques. C'est une conception, voilà. Ma mère aurait voulu mettre la table, éplucher les légumes là-bas avec les autres dames. Il ne voulait pas, le directeur. Pourquoi ? Voilà. Pour raison d'hygiène, paraît-il, c'est interdit. Et il y avait un grand parterre de fleurs, là, prétentieux, devant la maison de retraite, mais on n'organisait pas des petites séances de jardinage pour les dames qui étaient là. On aurait pu faire tout ça autrement. Je vois toujours les copines de ma mère là-bas. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais je sais qu'elles n'ont pas de visite, alors il ne faudrait pas qu'il y ait cette coupure entre personnes âgées et actifs et étudiants, etc. S'il n'y avait pas cette notion de profit dans cette société, tout ça, ça se ferait harmonieusement, si je puis dire. Tout le monde le souhaite. J'appuie là. Ah non, non, retour. Je veux téléphoner. C'est Pierre, oui? C'est Harmonie. Dis-moi, tu viens à la gare, toi, tout à l'heure? Parce que il y a quelqu'un qui amène le matériel. Moi, j'ai rien, là, du coup. D'accord, d'accord. Bon, à tout à l'heure. Merci. Il s'en occupe.
Donc, vous allez redistribuer des tracts,
voilà,
là, en fin d'après-midi.
On refait l'activité comme ce matin, mais à la gare de Pantin, la gare RER, voilà, avec des journaux, avec des affiches, en discutant, en présentant notre programme de lutte, voilà.
Vous vous arrêtez jamais?
Ben non, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on continue, tant qu'on a des forces et la santé. Et puis, il y a du pain sur la planche. Harmonia, Liberta, Liberto, Germinal, Floreal. Voilà ce type de prénom.
Un jour dans la vie d'Harmonie, un reportage de Sarah Lefebvre. Merci à Harmonie pour cette mémoire ouvrière et par l'évocation des 30 Glorieuses, qui nous semble un horizon aujourd'hui, alors que pour ceux qui l'ont vécu, comme elle, c'était pas forcément le paradis qu'on évoque si souvent, de plus en plus souvent. Et c'est à ces rêves-là qu'on mesure les désarrois de notre présent. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de l'émission. Alors, on a des auditeurs qui disent, mais non, faut laisser tomber Facebook, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que Facebook, etc. Ça commence à branler un peu dans le manche du côté Facebook. Merci à tous, quoi qu'il en soit. Et nous, n'oubliez pas aussi les repères de là-bas, si j'y suis, qui fonctionnent bien là. C'est un peu mou cette rentrée, on n'a pas beaucoup d'écho des repères, mais on sait que ça marche. Je vous rappelle le système. Dans votre coin, dans votre quartier, dans votre village où vous voulez, où vous vivez, vous avez vu, tiens, c'est marrant, il y a peut-être des gens qui écoutent France Inter dans le coin ou qui écoutent là-bas, si j'y suis. Ce serait peut-être sympa de se retrouver, pourquoi pas. Alors vous trouvez un bistrot sympa, ouvert, pas un truc fermé, un club ou un machin culturel quelconque. Non, le bistrot du coin, le café des sports, le café de la mairie, où vous voulez. Et puis, vous dites, voilà, on se réunit là. Vous nous envoyez un message. On se parle un petit peu au téléphone. Et puis, voilà, vous laissez un message sur le répondeur de la base où j'y suis. Puis, quelques jours plus tard, ben, vous voyez arriver du monde. 2-3 personnes, ou 30 ou 40. Et puis, vous commencez l'aventure d'un repère de la base où j'y suis. Voilà, à la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Ronan Mahé. Réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez. Pierre-Yves Bulteau est notre assistant et Solène Cordier s'occupe désormais du répondeur de là-bas si j'y suis, dont vous connaissez le numéro 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Tu sais que mon Lolo à l'école, c'est un petit manque.
Oui, mais t'es assuré à la Matmut pour l'école et pour le trajet aller-retour.
Et cette année, c'est 6 mois gratuits dans la nouvelle assurance scolaire.
Tu vois, ton loulou, il est bien couvert.
Offre valable du 2 juillet au 2 octobre prochain. Réservée aux sociétaires selon conditions en agence ou sur matmut.fr. Garantie selon conditions définies au contrat assurance scolaire.
France Inter présente Superstar, le nouveau film de Xavier Giannoli en sélection officielle au Festival de Venise. Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi.
C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il veut pas devenir célèbre.
Un film puissant sur l'emballement médiatique.
Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?
Avec Kad Merad et Cécile de France. Au cinéma le 29 août. Retrouvez Superstar dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut.
Et non, c'est Laetitia Gaillet.
Et oui, c'est comme ça. L'adolescent de 15 ans qui a reconnu avoir allumé l'incendie qui a détruit plusieurs centaines d'hectares de végétation autour d'Orgon dans les Bouches-du-Rhône est actuellement devant un juge du palais de justice d'Aix-en-Provence. Il devrait être mis en examen pour des faits de destruction volontaire par incendie ayant causé un dommage à l'environnement. L'adolescent qui a reconnu les faits fait déjà l'objet d'une mise en examen pour une autre série de mises à feu au mois de juillet, toujours dans la région d'Orgon. Les derniers foyers de l'incendie d'Orgon sont eux considérés comme éteints, mais aujourd'hui encore 400 pompiers sont mobilisés. Le bébé est sain et sauf et il est depuis le début de l'après-midi dans les bras de sa maman. Heureux épilogue après sa disparition la nuit dernière dans une maternité de Marseille. Une jeune femme l'avait enlevée. Elle a été interpellée et placée en garde à vue. La mise en garde du ministre des Affaires étrangères allemand à l'ensemble de l'opposition syrienne aujourd'hui. Avant de former un gouvernement, l'opposition au régime doit s'unifier pour la démocratie, la tolérance et la pluralité, a déclaré Guido Westerwelle. Hier, devant des diplomates français, François Hollande avait assuré pour sa part qu'il reconnaîtrait un gouvernement de transition. Annonce fraîchement accueillie par les États-Unis, Washington qui va dans le même sens que l'Allemagne aujourd'hui. L'opposition syrienne doit mieux s'organiser avant de penser à un gouvernement provisoire. Sur le terrain en Syrie, l'explosion d'une voiture piégée près de Damas a fait 12 morts cet après-midi et 48 blessés. Information donnée par la télévision officielle. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y aurait moins de victimes. Mais en tout cas, ces victimes viennent s'ajouter aux 40 tués lors de combats entre opposants et soldats du régime à l'est de Damas et dans les quartiers d'Alep aujourd'hui. Pas de trêve dans les émeutes à Mombasa au Kenya. Des jeunes ont lancé une grenade contre un camion de police cet après-midi. 16 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement. Ces violences font suite à la mort d'un prêcheur radical musulman lundi. Barack Obama s'apprête à parler en direct de la Maison Blanche. Le président américain fait une intervention à propos d'Isaac. La tempête tropicale va devenir dans la journée un ouragan selon les météorologues américains. Elle est actuellement située à 170 km des côtes de Louisiane où l'état d'alerte a été décrété. De la musique sur Mars, le dernier single de will.i.am, le chanteur des Black Eyed Peas, va être diffusé ce soir sur Mars et ce grâce au robot de la NASA Curiosity. Rich Force Star sera interprété donc par le chanteur américain depuis le laboratoire de la NASA en Californie. La chanson sera retransmise en direct sur Mars à 20h et à cette occasion, eh bien les membres de l'équipe Curiosity expliqueront à des étudiants le processus de transmission du son dans l'espace, tout un programme. Vous écoutez France Inter, presque 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Revolver, Maccabées et Broadway.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Et Frédéric Lodéon pour la suite des événements avec Carrefour de Lodéon, et ben c'est maintenant.
Oui, bonjour Laetitia, bonjour. Gaillet de nouveau, et puis à bientôt, on vous retrouve à 17h évidemment. Et oui. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Carmen, on y revient toujours. Il faut dire que c'est une des œuvres les plus jouées au monde avec le Boléro de Ravel. Carmen de Georges Bizet, encore, direz-vous, certes, mais c'est Simon Rattle qui dirige, c'est l'Orchestre Philharmonique de Berlin, il y a Magdalena Kojena, Jonas Kaufmann, vénéré ténor, Genya Q. Meyer, qui est aussi une cantatrice parfaite. Donc, comme ses collègues, c'est intéressant, un peu discuté, bien sûr, comme toujours. Forcément, on ne touche pas un chef-d'œuvre comme celui-là sans que tous les aficionados se mettent sur les rangs pour entendre, pour critiquer, pour dire ou écrire. Mais bon, allons-y, on va entendre, si vous voulez bien, le prélude de cette Carmen. Il faut un pas assez net, il faut que ce soit coloré, cambré, un rythme entraînant, mais ne pas cavaler non plus. Il faut pas donner l'impression que l'entrée de la corrida est une gigantesque foire. Et puis il y a le destin qui nous prend, qui nous serre le cœur juste après. Thank you. Le prélude en deux parties, évidemment de Carmen, le côté joyeux puis le côté tragique, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Sir Simon Rattle. Donc c'est une version récente, elle est même à sortir bientôt, sortie le 3 septembre, donc évidemment les critiques l'ont déjà, et ils se sont donné libre cours pour commenter cette version, mais ça vaut toujours le coup d'entendre d'abord avant de discuter. Et donc je cite le sigle, c'est EMI Classics, EMI, on a le droit de dire en français. Alors il faut aller évidemment vers Carmen elle-même, Magdalena Kogena, qui dit elle-même qu'elle n'a rien du personnage, ni physiquement ni vocalement, parce que normalement Carmen est imposante, elle est méditerranéenne, avec une voix profonde, très sensuelle. Et dit Magdalena Kogena, je savais depuis le début que ma prise de rôle ne serait pas appréciée par tout le monde. Mais comme Carmen avait décidé de se moquer de ce que pensaient les autres, eh bien je le ferai de même, je ne me soucierai pas moi-même des commentaires. Et quant au chef d'orchestre, Simon Rattle, il dit, j'ai la conviction que les interprétations très lyriques, avec ses grandes voix et beaucoup de vibrato, ne correspondent pas à ce que voulait Bizet, parce qu'il faut se rappeler que l'œuvre a été créée